Bonjour à tous. Qui ne connaît pas aujourd'hui dans son entourage quelqu'un qui a fait un burn-out, qui a été victime d'un épuisement professionnel, pour le dire en bon français? Ce terme est en effet en train de devenir malheureusement courant, syndrome d'un mal-être croissant au travail qui atteint parfois le drame avec des suicides en entreprise comme chez Renault et France Télécom dont on a parlé ces dernières années. Alors, peut-on être heureux au travail? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans le cadre du cycle des conférences vie professionnelle quelques repères proposées par le Collège supérieur où nous avons posé nos studios aujourd'hui. Pour tenter de répondre à cette question, un triptyque d'invités plutôt hétéroclite. Le directeur régional d'une entreprise de la région, un artisan chauffagiste et un philosophe. Alors, on va démarrer par l'artisan chauffagiste. C'est vous, Marc Alvarez, bonsoir.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes patron d'Alfarez Chauffaz Plomberie Service, ACPS. La carte d'identité de votre entreprise, c'est quoi? Vous faites quoi? Combien de salariés?
Eh ben, je suis artisan, donc je suis tout seul. Je pratique principalement du chauffage, de la plomberie, donc pas auprès de particuliers. Donc j'interviens pour changer des chaudières et puis pour faire des salles de bain. Enfin voilà,
c'est très utile, notamment en hiver.
Du quotidien, quoi, voilà.
Alors ce qui est étonnant, plus étonnant en tout cas, c'est que vous avez été banquier avant. Expliquez-nous comment vous êtes passé de la banque à la plomberie.
J'ai un cursus en fait assez particulier puisque j'ai commencé par faire un doc de sciences. Puis à la fin de ce doc de sciences, je me suis rendu compte que mon avenir était relativement bouché. Donc j'ai voulu faire une école de commerce. Donc j'ai poussé jusqu'à ce qui à l'époque s'appelait le DESS, en entrepreneuriat et technologie de l'information et de la communication.
Un troisième cycle.
Voilà, tout à fait. Puis à la suite de ce DESS, je suis rentré donc dans un établissement bancaire.
Pour faire quoi?
Donc j'étais conseiller de clientèle auprès des particuliers. Donc c'est de la gestion quotidienne de comptes, hein, comme on peut. Enfin, c'est les gens auxquels on a affaire en principe quand on va dans une banque.
Les gens avec qui on va poser des questions pour essayer de comprendre ce qu'on comprend pas trop.
Oui, voilà, avec qui on va négocier éventuellement des demandes de découvert principalement et des prêts. Enfin voilà. Et donc j'ai fait ça durant 4 ans, je crois. Et 4 ans pendant lesquels j'étais pas du tout à mon aise, c'est-à-dire que c'était très...
Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi vous n'étiez pas à votre aise?
La banque, alors je suis plus très au fait du domaine bancaire depuis la crise, puisque je suis parti juste avant.
Et avant 2008. Hein.
Exactement, en 2008 en fait, à dire vrai. J'ai
parti au bon moment en fait.
j'ai quitté la banque en fait la veille de la chute la veille du jour de la chute de Lehman Brothers. Donc vraiment c'était c'était chaud. Et donc en fait le truc c'est que je me suis rendu compte, enfin quand je suis rentré dans la banque j'avais une espèce d'idéal on va dire, enfin qui est vendu auprès du grand public.
C'était quoi cet
idéal? C'est d'aider les gens en fait au quotidien, c'est-à-dire de les accompagner dans leurs projets du quotidien et donc vers le futur, enfin les accompagner de manière générale. C'est ce qui est vendu en tout cas par les établissements bancaires auprès des particuliers. Et le truc, c'est que au fur et à mesure de l'avancement du temps, je me suis rendu compte que c'était principalement en fait l'accomplissement d'objectifs chiffrés. Donc mon travail au quotidien, c'était d'avoir une liste de produits bancaires et qu'il fallait que je vende à mes clients. Donc et que l'accompagnement en fait devenait secondaire, enfin devenait était un effet secondaire du principal qui était en fait de vendre des produits.
Et ça, vous n'étiez pas à l'aise avec?
Et j'étais pas à l'aise, et surtout que, enfin, après c'est une vision des choses, hein. J'ai des collègues qui étaient parfaitement à l'aise avec le concept. C'est vrai que la manière la plus simple d'arriver en fait aux objectifs, c'était de vendre à des gens qui n'étaient pas forcément en position de négociation. Donc c'est vrai que de ce point de vue là, j'étais pas à l'aise, quoi. Et donc chaque jour, enfin chaque semaine, le fait de retourner travailler le lundi matin m'était de plus en plus compliqué. C'était devenu physiquement compliqué.
Vous aviez plus l'envie?
Même plus que plus l'envie, j'étais malade.
Ah oui.
C'est-à-dire que c'était vraiment le simple fait de devoir aller travailler le lundi matin était complexe. Donc il y a un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de forcer.
Et alors là, vous avez fait quoi?
D'abord, j'ai paniqué. Enfin, ah ouais. C'est normal. Bah oui, aujourd'hui on fait des études, donc on ne pousse pas. Hein. Enfin, je veux dire, en général, on se pousse tout seul, mais on fait des études, on va de plus en plus loin. Et le truc, c'est qu'un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais faire réellement? Quelles sont mes compétences? Et j'avais l'impression de ne pas en avoir.
Donc vous aviez une perte de confiance, c'est ça?
Ouais, tout à fait. J'étais, pour moi, j'étais un incompétent. Enfin, j'étais devenu un multi-incompétent.
Ah oui.
Capable de d'avoir une couche de vernis dans un certain nombre de domaines, mais incompétent dans tous ces domaines-là, en fait. Une espèce de débutant général.
Et pourquoi vous aviez cette sensation-là? Parce que vous étiez compétent. Vous aviez fait un troisième cycle, vous aviez un métier.
Ouais, tout à fait. Mais le truc, la banque à ce site particulier, c'est un univers dans lequel on rentre et duquel il est assez compliqué de sortir. C'est-à-dire qu'un banquier, c'est une espèce de mixte entre un commercial et un comptable. Et enfin, voilà, c'est une espèce de... Et en fait, c'est un banquier. C'est-à-dire qu'un banquier qui veut pouvoir changer de métier, en gros, il peut devenir assureur ou banquier. Donc,
c'est assez limité, ouais.
Ouais, ça limite un peu.
Mais alors, pourquoi vous avez décidé de devenir plombier depuis banquier?
Voilà, le truc, c'est que
le pont semble pas direct.
J'ai eu la chance de savoir un petit peu bricoler. Et je me suis rendu compte que les fois où je travaillais de mes mains, j'étais tranquille, intellectuellement parlant. C'est-à-dire que durant le temps de mon travail manuel, j'avais l'esprit suffisamment vide j'étais tranquille. Et là, l'autre avantage, c'est qu'à la fin de la journée, on est épuisé, donc en fait, c'est un...
On dort bien.
Ouais, c'est un vrai plaisir de pouvoir dormir. Et donc, j'ai cherché à savoir comment est-ce que je pouvais m'orienter autour de cet aspect manuel des choses. Et puis à un moment, il faut être pragmatique aussi, c'est-à-dire que quand on a 32 ans et qu'on veut se réorienter, il faut trouver une orientation qui soit directement opérationnelle.
Alors comment vous êtes allé vous renseigner là? Vous avez procédé comment?
Alors donc je me suis renseigné tout simplement auprès du Fonds GESIF, donc qui est un organisme qui finance les formations pour des adultes qui ont un emploi, donc qui m'a aidé à voir quelles étaient les formations qui étaient disponibles, les financements qui étaient disponibles aussi. Et puis ensuite, ça consiste à monter un dossier, à faire des demandes, à expliquer à son employeur qu'on veut partir. Puisque en fait, le fait de monter un dossier auprès du Fonds GESIF nécessite l'accord de l'employeur.
Donc, c'était difficile, ça vous est...
C'est... Oui et non. C'est difficile parce que c'est brûler ses ponts. En quelque sorte, c'est-à-dire que ça revient quand même à aller voir son employeur en lui expliquant qu'en gros, on veut aller faire complètement autre chose. Mais en même temps, c'est un immense soulagement le jour où on arrive en disant, voilà, je suis pas bien, je ne peux pas continuer comme ça et je vais faire autre chose.
Et ça a été reçu comment par votre employeur ?
J'étais dans un établissement bancaire, donc mes niveaux d'hierarchie étaient multiples. Ça a été très bien reçu dans ma hiérarchie proche et beaucoup moins bien dans les étages supérieurs, puisqu'on n'abandonne pas la banque. Enfin, on abandonne. C'est perçu comme une espèce de trahison, quoi. Enfin, la banque, on fait carrière dans la banque. C'est-à-dire qu'on rentre en début de carrière et on poursuit jusqu'à ce qu'on parte en retraite. On est
encore aujourd'hui.
Ah oui, tout à fait. Donc c'est vrai que du coup, en gros, on crache dans la soupe. Enfin, pardon pour l'expression, mais c'est le cas.
C'était perçu comme ça, en tout cas.
Oui, tout à fait. On m'a expliqué qu'en gros, c'est une incompréhension totale, quoi. On peut pas. On est face à des gens qui sont dans la banque depuis 30 ans et à qui on explique que ça convient pas. Et ces gens sont pas forcément en situation de recevoir cette information.
En tout cas, ça vous a soulagé.
Parfaitement. Et donc, du coup, je suis parti faire un CAP. Donc,
gros changement.
Un bac moins 3 ou 4, je ne sais plus. Donc, durant 9 mois, chez formation pour adultes, donc à apprendre un métier.
Et là, comment vous a accueilli, vous, le banquier qui débarquait faire un CAP de plomberie?
Parfaitement bien. Parfaitement bien. En fait, déjà, la première chose que j'ai découverte, c'est que j'étais pas seul. Nous étions 7 adultes dans la même formation. Et ensuite, le bâtiment a ce site particulier que les gens ne jugent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens d'origine diverse dans le bâtiment. Et donc, en fait, bah, c'est normal. J'étais pas le premier à changer d'orientation et que, ben bah, voilà, il fallait. Enfin, en gros.
Il n'y a pas de préjugés particuliers.
Non, pas tout à fait. Ils payent pour voir, quoi. C'est-à-dire qu'on attend de voir ce qu'on est capable de faire. Et puis, si on a les compétences, bah, tant mieux. Et si on les a pas, bah, on fera pas l'affaire, c'est tout, point.
Et dans cette formation, elle a duré longtemps ?
Eh bien, le temps, c'est. Enfin. C'est une formation pour adultes, donc c'est un CAP abrégé, donc d'une année, 9 mois pour être précis, donc de septembre à juin, et qui est sanctionné par le CAP, donc le vrai avec les vrais élèves de, enfin les vrais écoliers de 16 ans. Donc c'est un peu une espèce de choc culturel, mais intéressant. Et donc à la suite de cette formation, j'ai décidé de créer directement ma société.
Ah oui, directement à la sortie, vous avez créé votre boîte.
Ouais. A posteriori, je me rends compte que c'était un peu suicidaire, mais c'est enrichissant. Mais parce que j'avais absolument aucune expérience dans le domaine dans lequel je me lançais. Je veux dire, si ce n'est 9 mois de
vous
formation.
Vous aviez travaillé nulle part chez aucun autre artisan.
Absolument pas. Absolument pas. Sans compter que c'est vrai que j'avais pas de notion de, enfin, ni de connaissance du domaine du bâtiment. Enfin, c'était vraiment du from scratch, quoi. Enfin, je suis parti de.
De rien.
Absolument rien.
Ça fait combien de temps là ? C'était il y a combien de temps ?
2009, donc 5 ans.
Ouais. Et alors 5 ans après, là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette entreprise ?
Et ben, ça se développe plutôt bien, en fait. Je suis très content. Je suis content de me lever le matin. Je suis content d'aller travailler. C'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où c'est vraiment très compliqué. Il y a des périodes où c'est plus compliqué.
Parce qu'il n'y a pas de clients, parce que...
Parce que oui, et puis surtout, bon, c'est vrai qu'en plus, quand on m'a dit que en 2009, que, enfin, en pleine crise, j'ai décidé de créer une entreprise, on m'a traité un peu de fou,
ouais.
Ce qui était probablement le cas. La situation économique générale en ce moment est un peu compliquée, donc c'est vrai que c'est pas forcément simple tous les jours. Surtout le début de l'année, là, dans le bâtiment, ça a été un petit peu l'apocalypse. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes où, effectivement, c'est plus complexe. Mais
comment vous expliquez que vous créez une boîte au pire moment, qu'on pourrait vous prendre pour un fou, dans un domaine dont vous ne connaissez rien, et vous êtes heureux dans votre travail ? Pourquoi ? Expliquez-nous.
Parce que j'ai la liberté de faire comme j'ai envie. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai pas envie de me lever le matin... Je peux ne pas le faire. Alors attention, je m'explique.
Vous ne faites jamais ça.
Voilà, ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais j'ai la potentialité de décider de mon destin. C'est-à-dire que si demain je décide que je veux changer ma manière d'être ou mes clients, ou j'ai la possibilité de le faire. Ou bien si simplement j'ai décidé de ne pas me lever le matin.
Et ça change tout.
Et ça change tout. Parce que c'est mon propre, c'est moi qui trace ma route, en fait. Et ça indéniablement, c'est super. Et la deuxième chose, c'est que, encore une fois, je suis sur du travail manuel et que je suis content le soir d'aller me coucher fatigué, vraiment, hein, physiquement fatigué, pas intellectuellement, mais physiquement. D'ailleurs, c'est des sommeils réparateurs. Donc voilà.
Alors, on va passer du patron seul dans son entreprise, qui a l'air super heureux au travail. Un patron d'une grande entreprise régionale, un cadre dirigeant, Joël Cassassol. Joël Cassassol, vous êtes plutôt en poste de manager, vous managez des équipes, vous managez beaucoup de monde, je ne me rends pas compte.
Le périmètre dont j'ai la responsabilité comprend à peu près 350 personnes et 280 millions d'euros.
Alors vous gérez beaucoup de monde?
Oui, je suis entouré d'une équipe quand même.
Mais de fait, vous êtes plutôt dans la posture de celui qui crée aussi les conditions de travail, qui encadre, qui manage.
Oui, absolument. Alors, on a ce soir quelques auditeurs qui, ici présents dans la salle, qui vont certainement être des dirigeants d'entreprise plus tard. Je vais peut-être parler de conditions difficiles d'encadrement, de conditions difficiles dans l'entreprise, mais je dois les rassurer. il y a quand même des solutions et il y a des manières de gérer qui sont profondément humaines et qui permettent d'atteindre des résultats à la fois financiers et sur le plan humain également.
Première question, j'évoquais en introduction de cette émission les cas de plus en plus courants, enfin en tout cas on en parle de plus en plus, de ce qu'on appelle le burn-out, hein, de l'épuisement professionnel. Quel regard vous posez sur cette situation? Comment vous l'analysez?
Le problème qu'il y a dans les grandes entreprises, c'est qu'on vit essentiellement en grande partie dans le court terme. Un grand patron du CAC 40 disait lors d'une conférence récente à laquelle j'ai assisté à Lyon, j'ai autour de moi des membres du conseil d'administration, donc mes actionnaires, qui me demandent de faire progresser continuellement le cours de la bourse. Donc comment voulez-vous que je puisse avoir une vision stratégique à moyen terme? Nous travaillons donc dans du court terme, non pas du très court terme, mais du court terme. Et je pense que d'abord, je suis allé à la fin de la conférence saluer ce PDG pour sa franchise et sa transparence, c'est pas toujours courant. Il faut se dire que nous vivons effectivement dans une situation un petit peu tendue au niveau de l'encadrement d'une grande entreprise, et c'est le terreau dans lequel vit le cadre dirigeant. Le cadre dirigeant a cet objectif qui est un objectif financier à court terme, et il doit animer ses équipes, les motiver, faire progresser les hommes et les femmes qui compose son équipe, quelle qu'elle soit, par sa taille, et tout en ayant aussi de la création de valeur pour l'entreprise. Parce que n'oublions pas quand même que le but important de l'entreprise, c'est certes de produire, de fabriquer des produits ou des services qui apportent satisfaction aux clients, mais également quand même dégager un niveau de rentabilité convenable. Sinon, l'entreprise n'existera plus. C'est pas Monsieur Alvarez.
Mais alors, moi, ce que j'aimerais savoir quand même avec vous, c'est que on voit, et on l'a vu dans des grandes entreprises, là vous évoquiez le CAC 40, des situations dont on a l'impression qu'elles sont nouvelles, de mal-être au travail. Pourquoi c'est plus courant? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il y en a plus qu'il y a, je ne sais pas, 20 ans?
Ben, on vit dans une période, dans une société en général, société humaine en général, qui est basée sur l'individualisme. Hein, on se rend compte que autour de nous, dans notre quartier ou dans notre ville ou village, on a un esprit communautaire qui a complètement ou grandement disparu, dirais-je. Donc cette situation-là, on la retrouve dans l'entreprise, où on retrouve des objectifs individualisés avec une nécessité de donner, d'apporter un résultat qui sera jugé comme étant le travail et le produit du travail de la personne. Et donc on a des cadres qui vont avoir, ou des employés aussi, hein, qui vont avoir une pression sur eux. Qui va faire que ça va engendrer obligatoirement un mal-être. Alors on parle de burn-out. Bon, le burn-out existe, bien entendu. Il est pas. Je ne nierai pas l'existence. Mais ceci dit, on a quand même de nombreuses personnes qui ont, avant le burn-out, qui ont aussi, qui vivent un mal-être. Et Monsieur Alvarez nous l'a décrit tout à l'heure à titre personnel. Donc mon analyse essentiellement, c'est une individualisation importante de la responsabilité. Et donc on va avoir un cadre qui va porter cette responsabilité sur les épaules, il va être seul. Il va travailler pour atteindre cet objectif, il va travailler tard le soir, le week-end, bien des fois. Portant du travail certainement chez lui. Donc il va essayer de développer, il ou elle va essayer de développer des phénomènes compensatoires qui vont être dans des vacances organisées à l'étranger, à la montagne ou la mer, pour essayer de, d'avoir une bouffée d'oxygène et une vie plus agréable avec les membres de sa famille ou de ses amis. Mais malheureusement, il est toujours seul et il arrive de craquer.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'étonne quand même, c'est que ça arrive dans un contexte où quand même depuis plusieurs décennies, on est conscient des enjeux de management. Dans les écoles de commerce, on parle de management, on parle de ressources humaines, d'accompagnement. On sent qu'il y a une sensibilité en termes de management des gens, avec même des théories sur le sujet qui se sont développées, à la faveur d'ailleurs notamment des Américains, mais pas que, dans cette réflexion. Et donc d'une sensibilité plus forte sur ces questions. Et malgré tout, ça semble être pire qu'avant. Alors, pourquoi ?
Ça semble être pire qu'avant. Je crois que la pression a toujours été quand même sur les épaules du cadre. Hein.
Ça a toujours existé, la pression économique, quand même.
On est d'accord. Hein. Simplement, comme je le disais en préambule, on a une entreprise qui va être à la recherche de l'optimisation de son cours de bourse. Et à partir de là, tout va en découler. Et on a la finance, entre guillemets, qui va piloter.
C'est ça le changement, c'est la
finance. Et donc, l'aspect humain, si vous voulez, est amoindri. On va parler d'un individu qui n'aura pas atteint ses objectifs. On va parler de fragilité. On va parler peut-être d'incompétence ou de compétences insuffisantes. Et de ce fait, on va moins l'accompagner. Hein. Et donc, comme je disais tout à l'heure, cette notion de communauté, d'équipe, existe de moins en moins. Et on le voit au travers de la prise de responsabilité. Mais cette prise de responsabilité, le refus de la prise de responsabilité ou les réticences à la prise de responsabilité, on va le trouver aussi dans la société. Qui va accepter spontanément de devenir président de sa copropriété, élu dans sa commune ou responsable de telle ou telle chose? Quand on va solliciter tel ou tel, chacun va répondre « Oh ben non, moi je ne voudrais pas, non ça ne m'intéresse pas, il y a plus compétent que moi, je ne voudrais pas être en première ligne ». On le retrouve dans l'entreprise où on voit de plus en plus de groupes de travail, de réflexion, de comités d'investissement, de réflexions diverses, qui vont en fait qui vont être des palliatifs pour gommer les peurs individuelles et diluer les responsabilités. Car l'individu qui va prendre une responsabilité avec un investissement derrière et parfois une rentabilité souhaitée qui n'est pas atteinte, s'expose en première ligne à une sanction qui peut être une sanction lourde. Alors ça peut être donc une sanction lourde financière ou ça peut être une accusation d'incompétence. Voilà. Donc pour cela, on a des individus qui vont être refusés de plus en plus de prendre des responsabilités directes.
Alors Joël Casasol, là, on a fait ce constat un peu dur et l'analyse. J'aimerais, parce que notre sujet de ce soir, c'est quand même peut-on être heureux au travail ? Donc là, on a évoqué ceux qui sont malheureux, mais vous, en tant que manager, en tant que responsable de plusieurs centaines de salariés, comment vous voyez justement la manière, en tant que manager, en tant que responsable de personnel, de contribuer au moins au bonheur des gens dans leur travail? Fruit de votre expérience, c'est quoi?
Alors, le thème de la soirée, c'était « Peut-on être heureux au travail ?» Alors, c'est une question qui m'avait interrogé très fortement, en me disant « Donc ça sous-entend, non, ça présuppose qu'on est malheureux au travail. » Donc, quand même. Oui, on peut être heureux au travail, et heureusement. Voilà, tout va dépendre du management que vous allez assurer auprès de vos équipes. Je m'adresse aux futurs managers là, que je vois. Lorsque j'étais jeune manager, j'ai été nommé J'avais 29 ans, j'avais aucune expérience de management, j'avais une expérience extrêmement théorique du management. Et donc, je faisais preuve d'autoritarisme, en demandant à mes subordonnés, qui étaient peu nombreux à l'époque quand même, écoutez, c'est comme ça et pas autrement, il faut atteindre cet objectif et il faut le faire et puis voilà. Et les objectifs étaient atteints, à la fois financiers, à la fois commerciaux, tout était atteint. Mais ceci dit, si vous voulez, ce type de management a des limites, des limites importantes. Et ces limites, je les ai rencontrées lorsque on m'a demandé de fusionner deux équipes sur la même zone qui étaient issues de deux sociétés différentes avec des cultures d'entreprise complètement différentes. Et là, je me suis heurté à une difficulté parce que il y a des positions qui se sont cristallisées et c'était plus possible de fonctionner comme ça, mais mes convictions personnelles ne me permettaient pas de continuer dans cette voie-là, un peu comme l'a exprimé mon voisin. Et il se trouve que là, j'étais en recherche, vraiment en recherche, genre me disant, il y a quand même d'autres modes de management que celui-là. Et j'ai eu une chance sur ma route, j'ai rencontré le CFPC, le Centre des patrons, Centre français du patronat chrétien, et qui est devenu EDC, entrepreneur et dirigeant chrétien. Et là, j'ai découvert la doctrine sociale de l'Église. Et donc pour moi, ça a été une très grande révélation. En fait, ce que j'avais en moi, sans pouvoir le formaliser, j'ai rencontré des gens qui, enfin, un texte dans lequel des gens avaient théorisé tout le ressenti que l'on pouvait avoir. C'est-à-dire que l'homme devenait le centre. Il devenait une fin et il n'était plus un moyen. Et là, tout le regard change complètement. Dès l'instant où l'homme devient une fin, eh bien, mon management a complètement changé, c'est-à-dire que je me suis mis au service des autres. Et me mettant au service des autres, je n'étais plus le chef hiérarchique respecté parce que j'avais été nommé par la direction. Mais à ce niveau-là, dans cette manière de manager, vous êtes reconnu pour ce que vous êtes. Vous êtes reconnu pour vos compétences. Et également parce que vous allez écouter, aider, faire grandir et vous soucier du devenir de chacun des membres de votre équipe. Et si vous partez, si vous agissez de cette manière-là, eh bien curieusement, vous allez avoir -1, -2, -3 qui vont agir de la même manière. Et donc, vous allez avoir des gens qui vont être plus épanouis. Vous allez leur permettre de faire des fautes. Ces fautes ne seront plus considérées comme des fautes, c'est-à-dire sanctionnées comme telles, mais ce sera des erreurs de jugement, de parcours, qu'on va ensemble essayer de rattraper. Curieusement, vous avez l'ensemble de l'équipe qui va faire preuve d'une très grande créativité pour justement corriger la faute de tel ou tel en se disant « demain, c'est peut-être moi qui la commettrai ou qui en commettrai une ». Et donc, vous allez faciliter la créativité, développer la créativité et développer également la force de pénétration de l'entreprise et donc créer de la valeur tout en ayant autour de vous des gens heureux. Voilà.
Alors on va poursuivre avec vous tout à l'heure, Joël Casasol, sur cette manière de rendre les gens heureux au travail, et puis comment on repère aussi, comment ils sont heureux. On va terminer notre tour de table après l'artisan plombier, le cadre dirigeant, le philosophe Bruno Roche. Vous êtes agrégé de philosophie, directeur de ce cycle de conférences, hein, vie professionnelle, quelques repères au collège supérieur. J'aimerais qu'on retrace avec vous l'histoire de la notion de travail et l'évolution de sa représentation dans notre société.
Oui, parce que ce sont deux termes qui se rejettent d'abord dans l'histoire de notre civilisation. Le bonheur n'est pas à chercher du côté du travail, mais le bonheur est à chercher du côté de l'oisiveté, du côté de l'activité libre, du côté de l'activité qui permet à l'âme ou à l'esprit d'être seul avec elle-même. Je vous rappelle que les dieux ne travaillent pas. Les dieux créent, ce sont d'abord des artistes. Ils font surgir quelque chose du chaos. Et puis ensuite, ce sont des despotes, c'est-à-dire qu'ils luttent pour le pouvoir. Seuls les hommes travaillent finalement dans cette affaire. Et le travail est le signe d'abord de la condition servile des hommes. C'est-à-dire que, comme les hommes essayent de se comprendre en regardant leurs différences avec les dieux, ils se disent « Ah, donc, on est moins bien finalement, que notre situation est moins enviable que celle des dieux. Notre condition est servile, nous avons à quoi ?» Il suffit d'ouvrir Hésiode, le premier grand texte sur le travail, c'est Hésiode au VIe siècle, les travaux et les jours, pour voir qu'en fait, cette condition servile de l'homme se manifeste dans le fait qu'il lutte contre la nature et qu'il y laisse des plumes, finalement. Il y laisse quelque chose de lui-même. En un certain sens, vous voyez, le thème de l'aliénation est déjà là, ce thème qui sera tellement développé tout au long de l'histoire de la philosophie. Au fond, on va voir dans le travail une activité aliénante qui empêche l'esprit donc de disposer de lui-même. Donc ça commence quand même un peu mal, si vous voulez. Là, j'ai évoqué la tradition grecque avec Hésiode, mais on pourrait aussi bien prendre la tradition biblique. Le « tu travailleras là sur ton front » résonne quand même comme une condamnation. Et cela va marquer notre représentation du travail.
Ouais, le travail est la condition d'une forme de servitude, quoi.
Voilà, exactement. Le travail est lié à une forme de servitude, ce que l'on retrouve bien d'ailleurs dans l'organisation de la cité grecque, puisque donc Athènes au 5e siècle, je vous le rappelle, c'est à peu près 300 000 sujets. Sur les 300 000 sujets, il y a 30 000 hommes libres. Et ces hommes libres, justement, ils font ce que font les dieux, c'est-à-dire qu'ils participent donc à la vie de la cité, ils font vivre en quelque sorte le bien commun, et donc ces 270 000 esclaves, femmes, enfants, autant donc de catégories sociales, si je puis dire, qui sont dans une relative servilité ou dans une relative servitude.
Mais au Moyen-Âge, dans le monde de la féodalité, c'est un peu pareil. Le seigneur ne
travaille pas. De la même manière, le seigneur ne travaille pas. Pendant très longtemps, vous savez que la caractéristique du noble, c'est précisément de ne pas travailler. Et le travail est ignoble, justement, c'est-à-dire non noble. Bon, là, un des critères de la noblesse, c'est précisément donc l'absence de travail. Alors, cependant, bon, tu travailleras là sur ton front. S'il y avait un exégète sur la table, il dirait oui, c'est plus compliqué que ça, parce qu'avant, c'était le jardin d'Éden et tu as déjà vu un jardin qui n'est pas travaillé. Non, donc bon, le jardin, ça suppose bien un petit peu de travail quand même. Bon, sinon, ce serait une forêt vierge. Les exégètes nous disent le plus important, en fait, c'est à la sueur de ton front. Ce qui veut bien dire que finalement, il y aurait une activité, celle qui permet au jardin d'être justement le jardin, qui est une activité non servile, et une activité qui finalement devient servile, qui est celle du travail servile, le « tu travailleras à la sueur de ton front », où là, le travail finalement résonne avec non seulement l'aliénation, mais vous le voyez bien, au fond, avec la souffrance. Et donc, l'homme libre, c'est bien celui qui est en retrait, en quelque sorte, de cette souffrance, qui est libre de cette souffrance.
Alors, à partir de quand, dans l'histoire, le travail va devenir un lieu de réalisation de l'homme ?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Je crois que le premier signe d'une inflexion et d'une valorisation du travail, c'est la réforme, c'est-à-dire, c'est le XVIe siècle. parce que, en fait, Luther cherche à comprendre ce que peut être très concrètement que l'amour du prochain. Et il va considérer que l'amour du prochain se manifeste dans le service qu'on peut lui rendre. Et donc, finalement, il va donner ses lettres de noblesse à l'échange. Car le service, finalement, que je rends à l'autre, c'est bien au travers de l'échange que je vais pouvoir lui rendre.
Du commerce.
Et donc, c'est en quelque sorte une justification, peut-être théologique ou exégétique, je ne sais, effectivement, du commerce. Et donc, l'activité laborieuse, c'est en quelque sorte notre manière de servir. Et donc, bien sûr que les ordres monastiques du Moyen-Âge équilibraient ora et labora. Là, clairement, la réforme nous pousse du côté du labora, hein, c'est-à-dire c'est par le travail, finalement, que nous manifestons notre intérêt pour l'autre. Et bien entendu, dans l'échange, il y a un gain. Nous ne pouvons pas jouir de ce gain. Il faut donc le réinvestir. Et c'est la naissance du capitalisme, donc, dans l'éthique protestante, comme le montrera merveilleusement Max Weber. Alors, donc ça, c'est le premier point. Le premier infléchissement, c'est clairement la réforme. Le deuxième infléchissement, c'est le 19e siècle, avec de très grands auteurs, en particulier donc les grands économistes du 19e. Mais il faut citer, évidemment, avant tout, le nom de Marx. Parce que apparaît, ou se renforce en tout cas, au 19e, cette idée que, au fond, le travail, c'est l'essence de l'homme. C'est-à-dire que si nous avons à dire ce qui fait vraiment la spécificité de l'homme par rapport aux autres espèces de la nature, eh bien, c'est que l'homme travaille, c'est que l'homme construit, c'est que l'homme projette, conçoit ce qu'il va ensuite produire. Et donc, ce n'est pas, vous le voyez, le rapport à soi, la spiritualité, la réflexion qui, pour Marx ou les grands économistes du 19e, vont définir l'âme humaine ou la condition, on dirait, humaine. Mais donc, c'est le travail par lequel cette humanité est en progrès constant. Cette humanité ne cesse finalement de vaincre les entraves de la nature par le travail. Et au bout du compte, en sortant constamment victorieux ou victorieuse des entraves de la nature, l'humanité non seulement s'humanise, mais humanise le monde. Ça, c'est vraiment la grande thématique du 19e siècle. Et donc, surgit à la suite du protestantisme, 2 siècles plus tard, donc, ou 3 siècles plus tard, une vraie religion du travail. Mais aussitôt, si vous permettez juste un mot là-dessus, aussitôt Marx nous dit « Ah oui, mais nous sommes dans un système économique qui ne permet pas à l'homme de posséder son essence. »
Parce qu'il parle d'aliénation, Marx.
Et voilà, et voilà. Et donc, ce que Marx va souligner, c'est que, au fond, le travail est aliéné, c'est que l'homme est privé de lui-même dans une certaine organisation économique qui s'appelle le capitalisme. Donc, ce qui est au cœur de l'analyse de Marx, ce n'est pas le capitalisme. On se trompe trop souvent là-dessus. Les dérives, d'ailleurs, idéologiques nous ont conduit à cela, à voir dans Marx une critique du capitalisme. C'est faux. Ce qui est au cœur du marxisme, c'est le travail. Et la réflexion de Marx, extrêmement puissante de ce point de vue-là, en tout cas du jeune Marx, c'est celle de savoir comment rendre à l'homme son travail, c'est-à-dire comment lui rendre son humanité. Et puisque ce n'est pas capable dans une organisation qui s'appelle le capitalisme, eh bien, il faut en inventer une autre. Et nous savons donc ce que c'est que cette autre organisation, et nous savons donc quelle a été ses limites et son destin historique, de fait. Mais vous voyez, je pense que c'est très important de comprendre que, finalement, la vraie question de Marx, c'était bien celle de savoir comment réconcilier le bonheur et le travail. Si nous définissons le bonheur comme le fait pour l'homme de réaliser pleinement ce pour quoi il est fait, nous comprenons que le travail était pour Marx, le travail libre était la condition pour ce bonheur.
RCF Lyon-Fourvière, Philippe Lansac.
Bienvenue sur RCF. Si vous nous rejoignez, nous avons posé aujourd'hui nos studios au Collège supérieur dans le cadre du cycle de conférences vie professionnelle quelques repères dont RCF est partenaire. Et nous nous posons la question, peut-on être heureux au travail? On en parle avec Marc Alvarez, qui est artisan chauffagiste, ancien banquier, Joël Cassassol, qui est cadre dirigeant d'une entreprise régionale, et puis Bruno Roche, agrégé de philosophie, directeur de ce cycle de conférences. Marc Alvarez, on a évoqué tout votre parcours tout à l'heure. J'aimerais que vous réagissiez à ce que disait tout à l'heure le manager, le cadre dirigeant, Joël Cassassol, qui aurait peut-être pu être votre patron quand vous étiez...
J'aurais adoré.
À la banque. En quoi ça a résonné en vous là?
Son idée du management est très bonne. Enfin, je suis très impressionné par l'homme. Maintenant, c'est vrai que pour avoir fait une école de commerce dans des périodes un peu plus récentes, pardon... C'est pas la manière dont est enseigné aujourd'hui le management. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans un management plus froid, beaucoup plus basé sur le chiffre, sur sur l'objectivation. J'en veux pour preuve que les derniers, par exemple la dernière théorie, le dernier truc qu'on apprend dans les écoles de commerce, par exemple, c'est ce qu'on appelle les tableaux de bord prospectifs. Et le tableau de bord prospectif, c'est simplement de découper le travail en tranches de plus en plus fines pour pouvoir chiffrer. Donc pour pouvoir obtenir les tableaux de bord à des niveaux méta.
Donc c'est le taylorisme à l'extrême, c'est ça là?
Exact.
Bruno Roche.
Oui, je pense qu'il faut apporter une petite précision. C'est que ces outils, en effet, de mesure, ne cessent d'être plus performants, mais ça, c'est main gauche. Main droite... On sensibilise énormément aujourd'hui les étudiants dans le management à la dimension qualitative. Donc, je crois que c'est du quantitatif, oui, mais à condition de bien avoir en tête que la dimension qualitative du management est très importante. Et je suis témoin vraiment de la manière dont les écoles de commerce aujourd'hui introduisent cette dimension du qualitatif dans leur programme.
Je vais le casser ça.
Oui, je voudrais simplement repréciser que, bien sûr, dans l'entreprise, la notion fondamentale, l'objectif fondamental, c'est quand même le quantitatif. Mais le quantitatif est intimement lié au qualitatif. Et il ne faut surtout pas l'oublier. Vous avez actuellement, dans l'entreprise, des contrôleurs de gestion qui vont mesurer des écarts par rapport aux objectifs qui étaient assignés. Et compte tenu de l'ambiance, vous avez bien entendu des écarts qui sont pour bien des fois inférieurs aux prévisions qui étaient posées au départ. Et dans un monde de management où on a individualisé le résultat, vous allez avoir le cadre responsable du projet qui va objectiver tout son raisonnement en justifiant les raisons pour lesquelles il existe cet écart par la situation économique, par une entreprise qui intervient avec des produits, fabrication de produits à bas coût, etc. Mais le fond de la question, pourquoi n'avons-nous pas obtenu ce résultat, est rarement posé. Il est rarement posé parce que, bien entendu, le responsable du projet va craindre, à titre personnel, d'être jugé. Or, si vous avez une part qualitative dans votre, aussi importante que quantitative dans votre management, eh bien, vous allez avoir a posteriori, à la suite de l'échec, l'échec de l'équipe par rapport à un projet donné, vous allez avoir une analyse extrêmement objective de la raison pour laquelle on ne l'a pas atteint. Et ça se fera sans crainte parce que les personnes ne se sentiront pas jugées et seront accompagnées. Et pour le prochain projet, pour le prochain exercice, curieusement, on va utiliser tous ces points négatifs que l'on a découverts pour aller vers le succès. Et croyez-moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué souvent de fois et ça fonctionne.
Bruno Roche, j'aimerais quand même qu'on revienne avec vous sur ce sujet des burn-out, là, de l'épuisement professionnel, parce qu'on voit quand même qu'il y a une certaine ampleur du phénomène. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que les gens le disent, alors que peut-être qu'ils ne le disaient pas avant, mais ça révèle quoi de notre société, et en particulier dans cette perspective historique que vous nous avez décrite ce soir, le rapport au travail.
Angèle Cassassol l'a bien dit, l'individualisme est un point qu'il faut absolument considérer. L'isolement des individus, la perte des solidarités vivantes par lesquelles chacun trouve en l'autre des soutiens. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça n'existe plus, mais Joël Cassassol l'a bien dit, ça dépend du management et de l'esprit finalement qui est celui de l'entreprise. Moi, je crois aussi que c'est lié au fait que nous avons une grosse demande aujourd'hui en termes de bien-être. C'est-à-dire que le constat du mal-être ou l'expérience que nous pouvons faire de la multiplicité des situations de mal-être vient de ce que notre exigence est plus importante en termes de bien-être et de bonheur.
On cherche plus au travail.
Oui, c'est-à-dire que ça veut dire que, alors que jusque-là, au fond, on avait, je le dis vite, hein, une vision sacrificielle du travail, et ce d'autant plus que ce travail se déployait dans, je dirais, l'idée d'un contrat social passé entre le salarié et l'entreprise. Je donne ma compétence, on me donne un salaire et donc une situation sociale stable. Bon. On avait une vision, donc, je dirais, un peu d'engagement sacrificiel. Cette dimension-là, elle est complètement tombée. Et elle est tombée extrêmement rapidement. La dimension sacrificielle a été portée, finalement, globalement par les Trente Glorieuses. Et la génération X a commencé à douter, et la génération Y n'a plus du tout douté. C'est-à-dire qu'elle a fait entrer le travail dans le registre et dans le périmètre de son bien-être. Chaque individu considère donc le travail non pas comme cet élément un peu à part dans lequel eh bien, on se consacre à la société, on est dans le système des échanges. Et puis le bien-être, c'est le week-end, c'est le soir, le petit coup avec les copains, etc., etc. Aujourd'hui, le bien-être ou notre revendication du bonheur est si importante, notre urgence d'être heureux est si importante, pardon d'être véhément, mais c'est si important pour nous que la sphère du travail est englobée dans cette exigence. Et alors là, qu'est-ce qui se passe dès lors? Ben, il se passe que la contrainte du travail pourrait apparaître insupportable, au fond. Nous entrons finalement sur le lieu du travail avec une exigence de bonheur, et que trouve-t-on finalement sur le lieu du travail? Mais on trouve une multitude de contraintes, comme vous l'avez très bien dit tous les deux, une multitude d'exigences et des efforts à fournir, et on n'est jamais sûr de pouvoir les fournir. Il y a un très joli texte d'Alain qui dit « En fait, on commence à travailler quand ça fait mal. » Grosso modo, je résume. C'est-à-dire qu'avant que ça fasse mal, on ne travaille pas parce que finalement, on est dans le mouvement, ça va bien, etc. C'est quand vous faites de la bicyclette, c'est pareil. Quoi. Quand vous commencez à souffrir, vous faites vraiment du vélo. Quoi. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas, si vous voulez, moi je suis sensible à ce point, on ne va pas totalement réduire cette dimension de l'épreuve dans le travail. Les anciens avaient raison, il y a une dimension de l'épreuve parce qu'on éprouve d'ailleurs soi-même ses propres limites dans le travail. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il y a une tension là entre cette épreuve donc que l'on ressent dans le travail et puis cette attente que nous avons qui est finalement une attente de bien-être.
Marc Alvarez, comment vous réagissez à ce que dit Bruno Roche à l'instant, vous qui êtes maintenant votre propre patron là, est-ce qu'on en attend trop du travail, est-ce qu'on attend trop de bonheur en fait?
Oui, probablement, mais je pense que le fait de savoir pourquoi on travaille est super important. À partir du moment où on a on peut apprécier son travail, on peut être heureux dans le travail qu'on fait quand on sait pourquoi est-ce que on le fait. Enfin, quand on a une vraie objectif de vie autour du travail, parce que finalement le travail aujourd'hui commence quand on se réveille et se termine quand on se couche, du fait des nouveaux outils de communication et de la permanence de l'information qu'on reçoit et qu'on émet. Le fait qu'on sache pourquoi est-ce que en fait, maintenant, le travail, c'est la vie, c'est quasiment notre journée entière. Donc il faut savoir où est-ce qu'on va et pourquoi est-ce qu'on le fait, quoi. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut être heureux dans le travail qu'on fait. C'est à partir du moment où on sait pourquoi est-ce qu'on va travailler. Et moi, je sais que je vais travailler parce que... Enfin, je suis content d'aller travailler parce que je rends un service. Mais pour moi, il faut qu'il soit tangible. Alors dans mon cas précis, il faut que ce service... Enfin, il faut qu'à la fin de la journée, il faut que le travail accompli, je peux le voir, je peux le toucher.
Joël Cassassol, vous avez encadré beaucoup de monde. À quoi on reconnaît que ces collaborateurs sont heureux, au fond, au travail ?
Moi, c'est relativement simple. C'est relativement simple par le fait qu'on a autour de soi des gens qui, le matin, ont le sourire. Alors, je décris... Certains vont dire que je décris une situation absolument idyllique. Alors, j'ai quand même rencontré des échecs. Hein. J'ai rencontré des échecs par le fait qu'il y a souvent quelques individus, mais c'est sur les deux doigts de la main dans les 40 et quelques années d'activité que j'ai. Il y a des gens qui demandent à avoir un chef autoritaire, omnipotent, qui décident, et ils ont à se reposer uniquement sur ce qu'il leur est demandé, sur le chef, et puis voilà. Donc ça devient plus compliqué quand vous vous impliquez dans la réflexion, au niveau du travail, l'ensemble de l'encadrement, mais également au niveau de l'exécutant. L'exécutant, c'est pareil, vous pouvez l'associer aussi. Dans cette démarche. Et à quoi est-ce qu'on voit que les gens sont heureux ? Ben, tout simplement, c'est qu'ils sont porteurs d'initiative. Et dès l'instant où ils ont une initiative, c'est qu'ils ne viennent pas au travail avec des semelles de plomb, puisqu'ils sont apporteurs d'idées et ils sont critiques également. Dans ce mode de management, il faut accepter aussi la critique, c'est-à-dire d'avoir des gens qui autour disent « Écoutez, monsieur, vous nous proposez de faire cela, mais je pense que ce serait mieux de faire de cette manière-là. » Donc, les premières fois, ça bouscule un petit peu. Mais dès l'instant où on a engagé ce mode de fonctionnement, eh bien, on s'aperçoit qu'on a décuplé la créativité et puis on a des gens qui sont relativement épanouis. Et quand ils ne le sont pas et quand ils arrivent et qu'on les croise le matin avec une triste mine, quand je disais précédemment qu'il fallait les écouter, ben ça demande de s'arrêter, de les regarder et de dire « Tiens, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui ». Donc, quand vous avez un planning de travail et que vous posez cette question à la personne, il se peut que cela dure une demi-heure parce que la personne va vous expliquer ce qu'elle vit vraiment. Et soit vous êtes dans la relation, je dirais, très superficielle, en disant « Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux demain », et ça ne marche pas. Soit vous êtes vraiment dans l'écoute et le désir d'aider, et là, ça marchera, parce que les gens verront que lorsque vous posez une question, quand vous leur demandez « Tiens, c'est curieux, j'ai l'impression que ça ne va pas », ils savent que vous allez les écouter, sans pour autant peut-être apporter une solution. Mais au moins, ils ont une écoute, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seuls, et vous recréez donc un esprit communautaire. Mais c'est vrai aussi avec votre voisin, hein, ou avec le pompiste... quand vous faites le plein de votre voiture.
Marc Alvarez, on arrive au terme de notre échange. J'aimerais qu'on conclue avec vous, parce que vous avez connu des difficultés au travail, on l'a entendu, on a ouvert cette émission comme ça. Et j'aimerais que vous disiez aux auditeurs qui vont nous entendre, qui eux peut-être vivent une situation difficile au travail, au fond, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour qu'ils soient heureux dans leur boulot ?
D'une part, on s'en sort. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fatalité, nulle part, enfin, jamais. Il y a toujours une ouverture. Il y a justement le principe de l'esprit communautaire, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour vous tendre la main, quoi qu'il arrive. Donc il faut simplement savoir regarder éventuellement dans la bonne direction.
Demander de l'aide ?
Ouais, toujours. Et c'est important, il y aura toujours quelqu'un pour répondre, de toute façon. Et ensuite, encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Donc il suffit simplement de savoir se tourner dans la bonne direction. Et je pense qu'on finit toujours par s'en sortir comme il faut.
Immense merci à vous trois. Merci Marc Alvarez. Je rappelle que vous êtes artisan chauffagiste, ancien banquier. Il y avait aussi avec nous ce soir Joël Cassassol, cadre dirigeant d'une entreprise régionale. Et puis Bruno Roche, philosophe et directeur du cycle de conférences Vie professionnelle. Quelques repères. Merci à Pascal Gauthier qui était à la technique aujourd'hui. Pour plus d'informations sur ce cycle de conférences Vie professionnelle, quelques repères et tous les cycles de conférences du Collège supérieur, rendez-vous sur le site internet www.collegesupérieur.com. Et puis comme d'habitude, si vous souhaitez réécouter ou partager avec vos amis cette émission, le site internet rcf.fr, podcast ou application smartphone. Bonne fin de journée à l'écoute des programmes de RCF.